Voilà, ce matin, j'ai prévu depuis quelques semaines de vous parler de Jean 17, d'apporter une prédication sur Jean 17. Et cette prédication donc va s'intituler Comment contempler la gloire de Christ? La gloire, on parle beaucoup de gloire. On peut comprendre derrière ce mot beaucoup de choses. Mais je voudrais juste suggérer que la gloire, c'est l'existence même de Dieu qui est glorieux, l'existence, la vie de Dieu, la vie de puissance de Dieu que nous ne pourrons pas supporter aujourd'hui, mais que nous verrons lorsque nous serons avec lui face à face dans sa présence. Et Christ a manifesté sa gloire particulièrement à trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et quand on voit la gloire de Dieu, eh bien, on est confondu parce que c'est d'une autre nature que notre vie personnelle, que notre vie, ce que nous avons aujourd'hui naturelle, c'est une vie surnaturelle. Et donc, comment contempler la gloire de Christ? Et je vous invite à la prière avant de commencer ce message. Seigneur, nous sommes tout petits devant ce texte que nous allons laisser nous parler, le texte de ta parole, de Jean 17. Cette prière que tu as faite à ton Père, Seigneur, nous sommes dans la reconnaissance parce que, Seigneur, tu as fait cette prière pour nous et nous voulons, Seigneur, la méditer ce matin afin qu'elle puisse toucher nos cœurs et nous aider à porter du fruit pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, je vais lire avec vous cette prière qui est un peu longue, mais je pense que c'est important de vraiment la laisser nous interpeller, la prière de Jésus, dans Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes et que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aidé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. C'est la parole de notre Seigneur. Connaître Christ, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître Christ. Dans cette prière de Jésus qui est extraordinaire, quelque chose d'extrêmement profond. Si nous arrivons à le saisir ce matin, ça peut changer toute notre vie chrétienne. John Knox, c'était un des réformateurs au XVIe siècle, avec Calvin, Luther, réforme protestante. Et il a amené la réforme protestante en Écosse. C'est le réformateur écossais. Il était tellement connu pour sa prière, lui aussi, la prière de John Knox, que la reine d'Angleterre avait plus peur de ses prières. Non, la reine d'Écosse avait plus peur de ses prières que de toute l'armée anglaise. C'est pour dire qu'il avait une efficacité dans sa prière. Non pas que lui faisait quoi que ce soit, puisque c'est Dieu qui agissait, mais lui, c'était un homme de prière. Et il a demandé à sa femme, qui l'a fait d'ailleurs, de lui lire Jean 17 au moment de sa mort. Sur son lit de mort, il a voulu que cette prière, que ce passage, soit lu par sa femme, ce qu'elle a fait. Ça montre l'importance, vous voyez, quand on meurt, on a un testament, on laisse derrière nous un message. Eh bien, ce message de ce réformateur, qui a transformé l'Écosse par son message, sa prédication, son ministère, eh bien, il savait la profondeur de cette prière. Et je pense que si nous arrivons à comprendre ce que j'ai essayé de vous transmettre ce matin, à comprendre la profondeur de ce que Jésus a prié, eh bien, nous ne serons plus les mêmes. Nous ne partirons pas de cette salle comme nous sommes venus. C'est en tout cas le souhait de mon cœur. La mission des pasteurs, parce que là on a parlé dimanche dernier, l'organisation de l'Église, pasteur ancien, etc. Mission du pasteur qui a toujours été le point de Calvin, qui, je rappelle, était juriste. Il était licencié en droit, c'est un Français qui a émigré à Genève hein, pour éviter les persécutions. Eh bien, qui était fondé sur la parole, mais aussi sur le droit, eh bien, il a bien dit que les pasteurs, c'était ceux qui apportent la parole. Ça peut dire que les anciens ne peuvent pas prêcher, hein, c'est pas le problème. Mais les pasteurs sont les ministres de la parole. Et ils sont appelés par Dieu pour cela. Ils doivent apporter la parole, pourquoi ? Pour l'édification spirituelle. Ils doivent équiper les saints, alors Éphésiens 4, hein, ils doivent équiper les saints, que nous sommes tous, parce que moi je suis le premier à devoir être équipé, pour dans l'édification spirituelle afin d'atteindre la stature parfaite de Christ, la maturité en Christ, la stature parfaite de Christ. Que nous puissions comprendre, connaître Christ. Et c'est le souhait de ce matin que vous puissiez connaître Christ. J'aurais, revenir sur ce que nous avons lu tout à l'heure. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi. Ça veut dire que cette prière de Jésus, qu'il a fait au moment où il avait ses 12 disciples autour de lui, bien sûr, a prié pour les disciples hein, qui étaient à ce moment-là vivants autour de lui. Mais dans sa prière, il a dit, je prie, Père, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en moi. Ça veut dire quoi? Vous? C'est vous? Donc cette prière s'adresse à nous. C'est formidable. C'est pour ça que c'est tellement important cette prière, de la comprendre, parce que c'est une prière que Jésus a adressée pour nous. Un peu comme si Jésus, il y a 2000 ans, priait pour aujourd'hui les chrétiens d'Aubergenville, de cette église, en 2022. Voyez-vous, c'est de cette nature-là que ce texte va être analysé ce matin. En tout cas, je vais essayer de vous parler de ce qui est important. Nous allons voir trois choses. Je ne sais pas si je pourrais tout faire ce matin, sinon je le reporte parce que je n'aurais pas, galvaudé ce texte-là. La première chose que j'aborderai, c'est ce que nous avons le plus besoin. Qu'est-ce que nous avons le plus besoin dans la vie? La deuxième chose, c'est comment nous pouvons le recevoir. Si nous avons besoin de quelque chose, comment est-ce qu'on peut le recevoir, ce que nous cherchons? Et enfin, quel est le résultat? Quel est l'impact dans notre vie? Ce qui est important, c'est que la parole de Dieu a un impact dans notre vie. Sinon, ça ne donne pas grand-chose. Alors commençons par le premier, ce qu'on a le plus besoin. Chacun de nous, quand on est dans ce monde, on est un petit bébé, on est élevé par des parents, malheureusement certains sont élevés par l'assistance publique, mais on est élevé pour devenir un être humain et pour avoir des relations avec les autres, parce que justement la différence entre l'animal et l'être humain, c'est que l'être humain a une certaine autonomie, il est au-dessus de la création de Dieu, animal de Dieu, biologique de Dieu, et il a besoin des autres. C'est un être relationnel, comme Dieu qui est un être relationnel. Et nous avons besoin de reconnaissance de qui nous sommes et de l'amour pour être acceptés tels que nous sommes. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. C'est le besoin fondamental de ce que nous cherchons tous, même si nous ne le réalisons pas tous les jours, mais quand on réfléchit, c'est ce qu'on fait ce matin, c'est qu'on a besoin d'une reconnaissance, qu'on existe. Et vous voyez tous ceux qui sont en déshérence parce qu'ils ont eu des problèmes dans leur enfance, ils cherchent à savoir qui ils sont. Et c'est le besoin de l'être humain qui est en dignité au-dessus de l'être animal. Et en fait, il a besoin d'amour. D'amour, d'être reconnu pour qui il est, tel que nous sommes. Se sentir aimé. Le verset 23 du texte qu'on a lu, Jean 17, dit « Père, je veux que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Comme tu m'as aimé, ça c'est important. Ce mot « comme ». Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Rendez-vous compte que nous sommes aimés de Dieu comme il aime Jésus. Nous adorons Jésus, nous louons le Seigneur, nous sommes là grâce à Jésus. Eh bien, Dieu nous aime comme il a aimé Jésus. Voyez-vous, je veux que cette phrase-là nous rentre dans notre être intérieur, notre cœur, pour savoir que l'amour que nous cherchons, je reviendrai un petit peu sur ce besoin d'amour que nous avons, il est satisfait au même niveau de Dieu pour nous que de Dieu pour Jésus. C'est fantastique. C'est formidable. C'est pour ça que John Knox a voulu que cette lecture soit la dernière avant de partir, pour qu'il se rappelle qu'il est aimé de Jésus comme Dieu aime Jésus lui-même. Ce qui est important aussi dans ce passage, c'est que tu m'as envoyé. Je l'ai mis en rouge là. Que tu m'as envoyé. Parce que ce qui est important, c'est que Jésus a été envoyé. Il n'est pas simplement né naturellement à Noël. On va fêter le mois prochain Noël, la naissance de Jésus, la naissance naturelle de Jésus dans la crèche, comme un bébé, comme celui qui est venu habiter parmi nous et qui est venu au travers de Marie, qui l'a porté dans son sein. Il n'est pas simplement né, il est envoyé par Dieu. Ça, c'est extrêmement important. Dit tout ça, il a été envoyé. Tu m'as envoyé. Comme M. Nicole m'excuse de faire du grec, mais comme la parole est écrite en grec, c'est le mot apostolo, envoyé. Apostolo. Apostolos, c'est l'apôtre. Apostolo, c'est le verbe envoyé. Il a été apostolé. Et c'est pour ça que le mot apôtre, apostolique, tous ces mots que maintenant on adopte un petit peu parce qu'ils étaient depuis 500 ans un peu mis à l'écart pour différentes raisons, à cause du catholicisme entre autres, qui parle de la succession apostolique, etc. Donc c'est des réactions de la réforme. Mais le mot apostolo, c'est le mot envoyé. Dieu a envoyé son fils dans le monde, vous connaissez Jean 3,16. Il a envoyé son fils, qui pourtant était son propre fils, qui était Dieu. Et de cette position de Dieu, il l'a envoyé par une naissance naturelle, mais il l'a envoyé surnaturellement par une naissance naturelle pour devenir le Christ, c'est-à-dire loin de Dieu. L'homme, le fils de l'homme. Jésus, quand il se définissait lui-même, dans tout le Nouveau Testament, il parle du fils de l'homme. Ce n'est qu'au moment, juste avant sa mort, qu'il réunit ses disciples à Césarée de Philippe, qui est au nord de Jérusalem, au nord d'Israël, et leur dit « Qui dites-vous que je suis ?» On revient sur l'identité. Quelle est notre identité? Quelle est l'identité de Jésus? Quelle est l'identité du croyant? Et ça, c'est absolument fondamental de savoir qui nous sommes. Et Pierre, comme d'habitude, le fougueux, dit « Seigneur, tu es le Christ ». Le fils de Dieu vivant. C'est-à-dire, tu n'es pas simplement le fils de l'homme, mais tu es le fils de Dieu. Tu étais envoyé en tant que fils de Dieu pour être le fils de l'homme, par une naissance naturelle, mais tu étais envoyé pour apporter la gloire de Dieu sur la terre et que cette gloire puisse transparaître dans les disciples qui, eux aussi, sont un comme nous sommes un. C'est toute cette unité qui part de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Et tout ça, tu m'as envoyé pour faire connaître l'Évangile. L'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Jésus a apportée sur la terre, c'est le royaume de Dieu. Il a amené le royaume de Dieu, le règne de Dieu sur la terre. Jusque-là, Dieu régnait au travers d'Israël, mais pas sur les nations. Il a utilisé Abraham, le premier père de tous les croyants, pour lui donner des promesses. Un jour, toutes les nations, etc. Ensuite, après, il a utilisé Moïse pour créer le fondateur d'Israël, le législateur d'Israël sur le mont Sinaï, qui a établi l'Israël sur le droit. Les 10 commandements, vous connaissez tous ce film, peut-être vous l'avez vu. Les 10 commandements. Sur la montagne d'Israël, sur la montagne de Sinaï. Donc, Abraham, avant Moïse, est venu parce qu'il a été appelé par Dieu pour être le Père des croyants. Et nous, nous revenons, après cette parenthèse d'Israël, nous revenons à l'origine d'Abraham, Père des croyants. Nous sommes tous en lien avec Abraham. Et ensuite, à la fin des temps, bien, Israël retrouvera effectivement sa place. Mais ce qui est important, c'est de voir le royaume de Dieu. Le règne de Dieu, Jésus est venu l'amener parce qu'il est Dieu. Et il a amené ce règne avec lui parmi ses disciples, parmi ceux qui croient en lui. Ceux qui n'ont pas cru en lui, ben, ils l'ont crucifié. Ils l'ont rejeté. Et c'est pour ça, dans la prière, Jésus dit, vous êtes haïs par le monde à cause de ce que vous croyez en moi, de ce que vous croyez dans ma parole. Il ne faut pas chercher la persécution, elle vient toute seule. Et beaucoup de chrétiens français pensent qu'on n'est pas persécuté. Ils se trompent. Bien sûr, on n'a pas de persécution parce qu'il y a des lois et un droit, mais pour combien de temps, je ne sais pas. Parce qu'il y en a beaucoup, même de droite, qui veulent rejeter la démocratie, préfèrent l'autocratie. Démocratie, c'est quand même une barrière contre l'autocratie, contre l'arbitraire, contre des décisions qui ne viennent pas du peuple, mais qui viennent de dictateurs. Eh bien, nous avons encore cette possibilité aujourd'hui de ne pas être persécutés physiquement. Mais pendant ma carrière depuis 30 ans, je suis un peu les pasteurs outre-Atlantique, en particulier les Américains qui viennent, les missionnaires qui viennent, et qui sont extrêmement persécutés par l'administration française. Et la plupart du temps, au bout de quelques années, ils sont découragés, ils repartent. Ils repartent. Parce qu'ils n'ont pas les racines, même en ayant les racines. Moi, j'ai dû me battre comme un lion contre un certain nombre d'administrateurs qui voulaient fermer cette église. Mais bon, comme il y a des liens sur place, il y a des hésitations pour aller trop loin. L'église de Mulhouse a failli disparaître aussi. Mais ceux qui viennent de l'extérieur, ils sont balayés la plupart du temps. Dès qu'ils veulent implanter leur ministère. Le monde nous haït, il faut le savoir, nous hait, parce que nous portons la parole. Le matin, j'écoute sur France Culture les cultes, les différents cultes. Hein. Il y a d'abord les orthodoxes, ensuite les protestants, et ensuite après il y a les francs-maçons. Alors, je ne les écoute pas, mais comme en partant, on met la radio pour faire semblant qu'il y a quelqu'un à la maison, souvent j'entends quelques phrases avant de partir. Eh bien, ils sont bloqués sur la laïcité. Voyez-vous. Parce qu'ils disent que la religion amène que des désordres, parce que ce sont des opinions qui sont mises en avant, des opinions différentes suivant les religions, etc. Oui, bien sûr, ils ont leur raison de penser comme ça. Une laïcité parfaite, voyez-vous, comme si eux, ils n'avaient pas de religion. Religion, la laïcité, ça existe aussi. Mais bon, je ne suis pas là pour parler de ça ce matin. Je dis simplement que nous avons l'Évangile, que Jésus a amené en amenant le royaume, le règne de Dieu avec lui. Et si nous croyons en lui, le règne de Dieu vient dans nos cœurs. Le lieu, c'est nos cœurs. Si nous connaissons Jésus, si nous adorons Jésus, si nous suivons Jésus, le règne de Dieu est là. Et si nous mettons ensemble, dans une communauté, quelque chose qui est en commun, eh bien le règne de Dieu est au milieu de nous. C'est tout simple. Voyez-vous, l'Église, ce n'est pas compliqué. Là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Ouais. Vous voyez, c'est ça l'Église. Alors après, on peut compliquer les dirigeants. Non, je suis au milieu de ceux qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur et qui ont la vie en eux. La vie éternelle, c'est ça qui est la gloire. On est compte qu'on a déjà la gloire de Jésus en nous, par le Saint-Esprit, par la vie éternelle. C'est cette vie qui, quand elle va se manifester, qui est glorieuse, qui est celle de Dieu, qui est celle qui a été mise en nous, mais qui est contrainte par notre nature charnelle, hein, d'ailleurs, Plusieurs de nouveaux ont remarqué que, voilà, l'Église, souvent, nous sommes dans la chair. Ben oui, parce que la chair, c'est ce que nous sommes, naturellement. Mais nous devons dépasser la chair pour être dans l'esprit et manifester la vie surnaturelle, la vie éternelle. Dieu envoie son Fils. Il n'est pas seulement né. S'il était seulement né, il serait humain. Il ne serait pas Dieu à la fois. Voyez-vous, les premiers pères de l'Église, on appelle ça les pères de l'Église des trois premiers siècles, hein, du 1er au 4e siècle, les pères de l'Église ont été confrontés à un tas d'hérésies, un tas d'hérésies. Il faut voir le nombre d'hérésies, les gnostiques, les légalistes, les arméniens, les pélagiens, etc. Et ils ont dû créer ce qu'on appelle la doctrine de la foi. Doctrine de la foi qu'ils ont établi comme le symbole des apôtres, hein, qu'on ne lit pas souvent entre nous, mais qui serait bien temps de le faire. Hein. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, etc. Croyance que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, cette doctrine a été établie pendant 3 siècles, ils ont mis. 300 ans, ils ont mis pour établir ça. Vous vous rendez compte ? Établir un élément de droit, c'est ça le droit. C'est d'établir la vérité doctrinale par rapport à la parole, la Bible qui est très vaste, qui a beaucoup de choses dedans. Parfois, on a besoin d'une synthèse. Là, c'est la synthèse de notre foi. Qu'est-ce que nous croyons ? Une déclaration de foi. Vous voyez, récemment, on a eu avec RNC, avec Jean-Marc, un peu certaines questions. Eh bien, il a fait une déclaration de foi. Et moi, j'étais très content, parce que je dis, c'est super, parce que déclaration de foi, dire je crois ceci, je crois cela, je crois pas ça, je crois pas ça, je crois ceci. Voilà, c'est juste une feuille 21-27, mais ça permet de dire je crois. Voilà. Et du coup, il faut bien sûr que ce soit appuyé sur la parole. Sinon, c'est attaquable. C'est juste nous qui croyons. Nous croyons par rapport à la vérité. Ta parole est la vérité. Donc Jésus a été envoyé, pas seulement né, sinon il ne serait pas fils de Dieu, fils de l'homme. Et c'est ça qui est décrit dans ce symbole des apôtres qu'il a été mis 300 ans pour le rédiger. J'aurais juste fait un parallélisme rapide par rapport à l'enseignement de M. Nicole. Il a montré qu'il y a certains qui sont nommés par l'Église et certains qui sont appelés par Dieu à des postes. À des offices, à des charges, etc. Ceux qui sont nommés, c'est les anciens et les diacres. Ceux qui sont appelés, ce sont les ministères d'Éphésiens 4, donc apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, etc. Et on retrouve un peu la même chose. Ceux qui sont en charge à partir du peuple qui veut effectivement donner cette administration à des personnes qui sont nommées et qui doivent être redevables au peuple, et ceux qui sont appelés par Dieu, ceux qui sont envoyés par Dieu. Et l'apôtre est envoyé, il s'appelle apostolo. Il porte le nom envoyé, apostolo. Et les apôtres sont envoyés. Ils n'ont pas à être redevables aux hommes, ils sont redevables à Dieu qui les a envoyés. Alors, ils sont aussi sur la terre, hein, donc ça complique un peu notre compréhension parce qu'ils sont aussi redevables, mais ils sont d'abord redevables à Dieu. Les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les apôtres. Voilà. C'est juste une parenthèse pour montrer que le Fils de Dieu a été envoyé et il a exercé son ministère sur la terre. Et il a accepté d'être humilié, puisqu'il a accepté d'aller jusqu'à la croix. Tu les aimes comme tu m'as aimé. Je vais présenter David Martin Leo Jones. Leo Jones, il était pasteur dans l'église à Oxford. Il est mort il n'y a pas une dizaine d'années. Hein. Et il a développé ce passage du verset 23. « Père, je veux que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu m'as aimé. » Et il a développé ce passage de manière très, 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 très forte. Mais là, je vais aller un peu trop loin. Dieu nous sauve au moment où on croit. C'est ça qui est formidable. C'est que le salut ne dépend pas de nos œuvres. C'est pas ce que nous faisons qui nous sauve. C'est que nous sommes sauvés au moment, à l'instant, à la seconde où on croit en Jésus-Christ. C'est toute la réforme protestante qui a remis ça en valeur, qui avait été masquée par la religion. C'est que on n'a rien à faire si ce n'est que d'accepter Jésus. Et on le voit déjà du temps de Jésus, quand il rencontre des gens, ben, dès qu'il croit, eh bien, il est sauvé. Tu m'as aimé comme le monde. Tu as aimé le monde comme tu m'as aimé. Donc le monde aussi est aimé. Le monde, c'est pas le grand méchant loup. Hein. Bien sûr, il nous aime pas, le monde. Mais Dieu aime le monde. Et c'est pour ça que nous devons être dans le monde, pour témoigner du royaume dans le monde. Voyez-vous, nous ne sommes pas là pour critiquer le monde, pour juger le monde. Le jugement dernier, ce sera à la fin des temps. Ce n'est pas à nous de juger. C'est Dieu qui va juger. Mais nous sommes dans le monde, non pas étant du monde, mais dans le monde pour témoigner, parce que Dieu aime le monde. Il aime ce monde qui est rempli de pécheurs, de gens comme nous, qui ont besoin du Seigneur Jésus. Dans ce verset, il faut savoir que tout ce que Jésus a fait, et fait de bien, bien sûr, ça nous est imputé. Nous sommes au bénéfice de tout ce que Jésus a fait. C'est ça qui est extraordinaire. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Non seulement nous ne l'avons pas aimé en premier, c'est lui qui nous a aimés, et nous simplement on répond à cet amour de Dieu, mais en plus on reçoit en cadeau tout ce que Jésus a fait pour nous. Il est mort pour nos péchés, il est mort pour nos maladies, il est mort pour toutes nos blessures, tous nos problèmes que nous avons, il est mort pour cela, et si nous l'invoquons, nous pouvons être guéris, nous pouvons être complètement restaurés grâce à tout ce que Jésus a fait. Voyez-vous, c'est extraordinaire quand on pense que Dieu aime Jésus et il aime le monde comme il a aimé Jésus. Vous savez que seul le Père, seul Dieu le Père, sait ce que Jésus a souffert. Bien sûr, nous, on peut imaginer ce que Jésus a souffert. Il y a même des films, là, de Scorsese, qui présentent la crucifixion de Jésus. Certains disent, bon, il y a trop de sang et tout ça. Bon, certains disent, ouais, mais c'est la réalité. Okay. Mais jamais, jamais, on arrivera, soit par un film, soit par notre imagination, etc., comprendre ce que Jésus a souffert. Seul le Père le sait. Et quand on rentre dans cette contemplation, contempler la gloire de Dieu, contempler la gloire de Christ, c'est réaliser que toute cette souffrance, c'est pour moi. Toute cette souffrance que Jésus a subie, c'est pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous. Moi, j'étais très engagé dans mon église catholique, ce que je servais, et à 20 ans, j'ai réalisé d'un seul coup ce que Jésus a fait pour moi. Eh bien, c'était incroyable. C'était incroyable. J'étais rempli de la gloire de Dieu, simplement de réaliser ce que Jésus a fait pour moi, pourquoi il est mort et comment il est mort, tout ce qu'il a souffert pour moi, etc. Ça s'appelle la conviction de péché. Et c'est ce qui se passe dans les réveils. Il y en a qui ont lu des livres de réveil. Je vous invite à le faire. Moi, j'en ai dévoré. Livres de réveil. Aujourd'hui, on ne vit pas de réveil. Mais quand on vit un réveil, je peux vous dire, vous êtes convaincu de péché à tel point qu'un des réveils auxquels je pense, à New York, eh bien, les gens se cramponnaient. À l'époque, il y avait plus de poteaux dans les salles qu'aujourd'hui, parce qu'on a des structures qui sont portantes, mais il y a beaucoup de poteaux. Les gens, ils couraient vers les poteaux pour se tenir, parce qu'ils voyaient qu'ils descendaient en enfer. Tellement, ils étaient convaincus d'être pécheurs. Et que leur vie se terminait en enfer. Et ils criaient. C'est des temps de réveil. Mais je peux vous dire qu'une fois qu'ils ont convaincu ça, mais ils sortaient dans la rue pour annoncer l'évangile. Le pasteur n'avait pas besoin de leur dire évangéliser. Il courait pour parler de cette bonne nouvelle. Voyez-vous, c'est ça. C'est ça, là. Quand il y a un vrai réveil, il n'y a pas besoin d'un leader, d'un coach qui vous dit quoi faire. Vous savez que ce que vous avez vécu, eh bien, vous voudriez que d'autres le vivent aussi. C'est ça, le réveil. Réveil du Pays de Galles, il faut voir les mineurs dans les fonds des mines, ils se convertissaient, c'était absolument incroyable. Lisez ce moment-là. Prions pour un réveil. Mais nous n'avons pas besoin d'un réveil si nous contemplons la gloire de Christ. La gloire de Dieu sur la face de Christ, eh bien, nous pouvons être changés. Et seul le Père sait à quel point le Fils nous a aimés et s'est donné pour nous, pour toi, mon frère, ma sœur. Il s'est donné pour toi. Et quand on réalise ça, c'est là qu'il y a la conversion. Moi, je croyais en un Dieu formidable et tout ça. Mais quand j'ai compris qu'il est mort pour moi, eh ben, là, vous réalisez quelque chose d'extraordinaire. Jésus s'est sacrifié pour la mission qu'il a reçue. Parce qu'il était envoyé avec une mission. Parce que quand on est envoyé, apostolo, un apôtre, il a une mission. Il n'est pas envoyé comme ça, voilà. Il est envoyé avec une mission. Dieu envoie avec une mission. Et chaque apôtre a une mission spécifique. Pierre avait une mission pour le peuple juif. Paul avait une mission pour évangéliser le peuple païen. Chaque apôtre, chacun qui est envoyé, il reçoit une mission. Sinon, ce n'est pas un apôtre. Ça n'a rien à voir avec le mot apostolo envoyé avec une mission. Jésus a eu la mission de sauver l'humanité. Dieu, le Père, l'a envoyé avec cette mission. Et il s'est sacrifié pour sa mission. Voyez-vous, la particularité de quelqu'un qui suit Jésus, c'est qu'il est prêt à se sacrifier pour la mission qu'il a reçue. Alors, il n'y aura pas de mission pour sauver tout un peuple. Jésus l'a fait, le salut est déjà fait. Voilà, on ne reçoit pas ce genre de mission. Mais la mission qu'on reçoit à notre niveau, eh bien, il faut que nous puissions dire, Seigneur, je veux être fidèle à la mission que tu m'as envoyée. Quelle est ta mission? Nous sommes tous appelés à quelque chose. Mais certains sont appelés avec une mission spécifique. Et Jésus, lui, est allé jusqu'au bout. Il a failli. Vu l'étendue des souffrances à Gethsémané, il a failli arrêter, mais il est allé jusqu'au bout. Il dit, Père, aide-moi que je puisse boire cette coupe qui est devant moi pour que je puisse aller jusqu'au bout de ma mission. Le pasteur Leon Jones a écrit une série sur Jean 17. Vous avez vu, Jean 17 a fasciné, bien sûr, beaucoup de pasteurs, prédicateurs, etc. Et il a écrit sur cette série Jean 17. Et il a dit, c'est quand on réalise qui on est en Christ, c'est-à-dire la vraie vérité du chrétien, eh bien, quand on lit la Bible et qu'on s'empare de ces vérités, il n'y a que là qu'on peut être changé et transformé. Voyez-vous, on parle de transformation, nous c'est super, on a le ministère de Maison d'Élie. Mais vous savez, ça reste un outil. Ça reste un outil. Pas magique, hein, c'est pas ce que vous faites, le ministère Maison d'Élie, que vous êtes changé. Mais ça change une personne. Quand on réalise qui est Jésus, que je suis en Jésus, que je suis aimé comme Dieu le Père a aimé son Fils, quand je réalise ça, eh bien mes amis, ça vous transforme. Vous n'avez pas besoin même de la Maison d'Élie. Bon, c'est complémentaire. Mais ça change un chrétien. Ça change une personne. Pasteur Leon Jones l'a dit, John Knox l'a dit, tous les grands qui ont vécu quelque chose de profond avec le Seigneur, bien, ils ont compris cela. On peut changer par les vérités à partir du moment où on se les approprie. Pas juste dans la tête, hein, dans le cœur. Il faut que ça descende. Hein. Il y a beaucoup de chrétiens, c'est dans la tête. Ils savent les paroles, ils savent les versets, ils peuvent même les... Voilà. C'est marrant parce que souvent on parle avec Michel de choses et d'autres, et Michel me disait une vérité. Elle dit des vérités, elle ne se rend pas compte que c'est profond, hein, ce qu'elle dit. Elle dit, on se retrouve au Moyen-Âge. Les chrétiens se retrouvent au Moyen-Âge. Je dis, ah bon? Qu'est-ce que tu veux dire par les Moyen-Âge? Je dis, bah oui, c'est super ce que tu dis. Les chrétiens aujourd'hui, les églises aujourd'hui, si vous voulez, voilà, pour être concret, on se retrouve au Moyen-Âge. Moyen-Âge, c'était la partie la plus sombre de l'histoire occidentale, hein, vous voyez, etc. Je dis, mais explique-toi, explique-toi. Et quand elle s'est expliquée, je dis, oui, tu as raison. Parce que moi, je suis très curieux, hein, et il y avait les 450 ans de la révocation de l'édit de Nantes, un colloque à Poissy, il y a quelques années, à Poissy. J'y suis allé, à ce colloque. Donc, dans ce colloque, il y avait tous les spécialistes de l'édit de Nantes qui étaient là et qui nous ont expliqué que Catherine de Médicis, qui était la reine à l'époque où il y a eu les guerres de religion, bon, il y a beaucoup de polémiques sur qui elle était, peu importe. En tout cas, il a voulu réunir les protestants et les catholiques à Poissy, c'est le colloque de Poissy, pour qu'ils discutent ensemble. Parce qu'elle voulait qu'en France, qui avait la moitié de la France était protestante. Hein. En tout cas, les intellectuels et tout ça. L'autre était catholique. Donc, il y avait un combat qui était. Et normalement, le roi, il doit être le roi de tous les Français, pas juste d'une partie contre l'autre. Donc, il avait ce souci de faire dialoguer les protestants et les catholiques. Alors, il y a eu les plus grands de théologiens qui sont venus, d'Allemagne, de Suisse, de machin, etc., les protestants et les catholiques. Et ça a duré, là je ne sais plus, c'est 15 jours, ou voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai écouté comme ça avec mes oreilles, parce que je n'étais pas là à l'époque, hein, il y a 500 ans que ça s'est passé. Et en fait, un, il parlait en latin, donc il fallait connaître le latin. Donc, vous voyez déjà, il y avait une partie des Poissy, des gens de Poissy qui ne pouvaient pas suivre. Hein. À l'époque, il y avait quand même des intellectuels qui connaissaient le latin. Donc il était là. Et il faisait de la scolastique, théologie scolastique. C'est quoi la théologie scolastique? C'était le Moyen Âge. Ça a changé avec les réformateurs. Théologie scolastique, c'était qu'il prenait les versets de la Bible. Tout est sur la Bible, hein, vous voyez, c'est toujours la Bible. Hein. Bon. Il prenait la Bible, les catholiques, les protestants. Il prenait les versets et il faisait des joutes oratoires de versets. Le verset dit ça. Le verset Jean 15, 36 dit ça. L'autre, il se levait, donc toujours en latin. Le verset d'Ésaïe, machin, dit ça. L'autre disait le verset, etc. Ben, on nous a dit qu'au bout de quelques jours, la salle se vidait. Se vidait. Je veux dire, il y avait les théologiens hein, qui continuaient leur joute de cette théologie scolastique, parce que tout était basé sur les versets. Et tout est des versets de la Bible. Hein. Voilà. Sauf qu'il y en avait qui disait ces versets disent ça, l'autre qui versets disent ça, ces versets disent ça, ces versets disent ça, etc. Des joutes de versets. Voilà. C'était ça la théologie de l'époque. Celui qui gagnait, celui qui était la plus de rhétorique, c'est-à-dire le plus orateur, et il semblait que les protestants étaient un peu mieux placés que les catholiques. Vous voyez, on dit, ah, s'ils avaient choisi quelqu'un des catholiques, machin, ils seraient. Bon, enfin bref. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est passé que personne n'a gagné et qu'ils sont arrivés à rien. À rien du tout. Et Catherine Médicis, qui voulait à la fin qu'il y ait une Sainte Seine, quelque chose. Voilà. Alors là, c'était fini. Là. Ils sont complètement séparés sur la Sainte Seine. C'était l'horreur. Voilà. Pardon. J'ai touché, malheureusement. Mince. Ah oui, je fais vraiment des bêtises, là. Et voilà. On a eu la guerre de religion. Après, il y a eu Barthélemy, machin, et les massacres qu'on a connus. La théologie de verset, voilà ce que ça amène. C'est pas l'esprit, c'est la lettre qui tue. La lettre qui tue. Nous, il faut qu'on connaisse Jésus. Jésus est l'amour que le Père a manifesté à Jésus, qui est le même pour nous. Et c'est ça qui nous transforme, c'est ça qui nous confond, et c'est ça qui nous donne un moteur intérieur, le moteur de l'amour de Dieu qui nous presse pour aller vers les autres, pour aller à l'extérieur, pour aller vers les frères et sœurs, et pour nous aimer. Parce qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui connaît mieux les choses que nous, qui connaît nos limitations, qui connaît nos faiblesses, qui connaît nos failles, parce que nous ne sommes pas Jésus, nous sommes un être humain, et nous devons accepter nos limites. Et si nous nous emparons de cette vérité, comme le dit le pasteur Leo Jones, eh bien, notre vie tout entière va changer. Je vais m'arrêter là ce matin parce que je n'ai pas beaucoup avancé. Mais je voudrais qu'on puisse vraiment prier. Je vous invite à prier pour que notre Église ici, parce que moi, j'en suis responsable, eh bien, que nous puissions sortir de toutes ces guerres intestines, de « si dit ça, la Bible dit ci, machin, etc. » Et que nous puissions réaliser à quel point Dieu nous aime. Combien Dieu aime mon frère, Dieu aime ma sœur. Que nous devons être un comme lui est un. Imaginez, Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit, ils sont un. Et nous devons être un. Et vous ? C'est-à-dire que nous prions tous pour l'unité des églises, au niveau mondial, les catholiques, les protestants, mais prions déjà pour notre église ici, nous soyons un. Ça commence par Jérusalem, Samarie et les extrémités du monde. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions parce que, Seigneur, cette prière que tu as faite, nous croyons que le Père l'a exaucée. Et que s'il l'a exaucée, eh bien Seigneur, ces réalités que tu as priées, eh bien, puissent s'appliquer à nous, s'appliquer à chacun d'entre nous. Et nous te prions que, même s'il n'y a pas de réveil aujourd'hui, eh bien, qu'il y ait un réveil dans nos cœurs, dans chacun de nos cœurs, que nous puissions réaliser, Seigneur, cet amour inconditionnel, que nous n'avons rien fait, simplement par la foi, nous sommes sauvés. Mais Seigneur, que tout ce que tu as fait nous est imputé, et nous sommes au bénéfice de tout ce que tu as gagné à la croix. Seigneur, nous sommes une nouvelle création. Nous sommes un en Christ. Nous sommes un les uns avec les autres. Seigneur, que nous puissions le vivre comme l'Église primitive l'a vécu dans Actes 2, 42. Ils étaient tellement un que le monde a cru grâce à cette unité. Seigneur, que tu puisses nous aider à le réaliser afin que nous puissions voir ta gloire. Ta gloire, c'est ta vie au milieu de nous. C'est ça la gloire. C'est vraiment la vie puissante qui rayonne, Seigneur, au travers de nous, au travers de la communauté que nous formons, pour que, Seigneur, ton nom soit glorifié. Seigneur, et c'est là que, Seigneur, nous pouvons avoir la meilleure évangélisation. Que les gens disent, mais comment vous êtes? On le voit sur vos visages, on voit votre unité qui est surnaturelle. Eh bien, Seigneur, que ce soit une réalité dans les mois, les années qui viennent, pour que cette communauté puisse être une communauté d'amour qui reflète ta gloire. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.